Bienvenue sur Micro Standard.
Tiens, voilà, bar.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, voilà, bar.
Zona.
Rancard.
Bazar.
Bonjour, Catherine avec vous pour cette nouvelle émission de Micro Standard, au cours de laquelle Daniel parlera d'un tableau de Yann d'Argent. Nous poursuivrons ensuite le dossier de notre émission sur les toxiques et les addictions. Le sujet sera apporté par Bertrand, Daniel, Nicolas et le docteur Charpentier du centre XAPA des Pays de Morlaix, dit centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ensuite, un moment de poésie de Nicolas sera suivi par une note d'humour de Bertrand autour d'une expression populaire. Bonne écoute! À la mairie de Saint-Paul-de-Léon pour admirer le tableau La Petite Roscovite.
Bonjour. Imaginez, nous sommes à la mairie de Saint-Paul-de-Léon où se trouve un très joli tableau que je vais vous décrire. Une fillette pauvre, nu-pied, coiffée d'un bonnet bleu à liseré, jupe grise effrangée, se tient assise sur un rocher au pied duquel pousse une maigre végétation. Sur son chemisier blanc, un petit caraco, bleu également, atténue la modestie de sa tenue. L'enfant, aux yeux noisettes, timide et inquiète, paraît d'une infinie tristesse. Un ciel lourd l'enveloppe. Les teintes froides du tableau, bleu et grise, accentuent cette mélancolie. La mer est basse et la silhouette de l'enfant se détache très nettement sur la ligne d'horizon. Remarquez bien à droite un très lointain clocher. Ce tableau, peint par Yann d'Argent, 1824-1899, appelé La Petite Roscovite, est exposé à la mairie de Saint-Paul-de-Léon. L'artiste est né à Saint-Servais, petite commune léonarde, sise entre l'Esnevin et Landivisiau. Il fut avant tout un des plus grands illustrateurs de sa génération, mais en tant que peintre, il ne reçut pas la reconnaissance pourtant méritée de ses pairs, même si une Légion d'honneur lui fut attribuée en 1877. Il demeura toujours un marginal, mais au sens qu'il n'était pas issu du sérail, ne fréquenta jamais les ateliers et travailla essentiellement sur commande. Pour ceux qui poursuivent leur périple en Cornouailles, allez visiter le très beau musée des Beaux-Arts de Quimper. La toile la plus célèbre du peintre, Les Lavandières de la Nuit, y est exposée. Tout près de là, la cathédrale Saint-Corentin abrite les fresques religieuses entièrement rénovées de l'artiste. Elles ont contribué à sortir Yann d'Argent de l'oubli. Sa commune natale abrite un musée en sa mémoire, ouvert au mois de juillet et au mois d'août.
Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, les parfums qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint. Laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne peint. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve. Les couleurs, il y met sa vie, le bruit de son cœur, et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile, et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint. Laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Cézanne peint. Éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien,
qui chante Cézanne peint, Daniel nous retrace l'historique et le rapport particulier que chaque civilisation a entretenu avec les toxiques.
Sous l'Antiquité romaine, la drogue est un mot indifférent
qui englobe ce qui sert à tuer et ce qui sert à soigner, mais la loi condamne l'euthanasie. L'opium est en vente libre à Rome, bien que taxé. Dans cette ville, près de 800 boutiques vendent de l'opium. Malgré tout, cette impressionnante consommation n'est pas pour autant source de troubles à l'ordre public. Par contre, le danger social vient du vin. Ce dernier est surtout utilisé comme apéritif, aromatisé d'épices, mais aussi pour rendre l'eau potable. Vers 200 avant Jésus-Christ, il est interdit de se livrer au mystère de Bacchus, culte célébré à Rome depuis longtemps. Il n'existe pas en latin d'expression équivalente à opiomane, alors que les Romains n'ont pas loin d'une douzaine de termes pour désigner l'alcoolisme. Le christianisme prend le contre-pied de la civilisation romaine. La Bible fait environ 280 références à la vigne ou au vin. Jésus proclame qu'il est le vrai cep et que Dieu est le vigneron. Noé est le premier à planter la vigne, ce même Noé qui s'enivre et expose sa nudité. Les alchimistes découvrent la distillation de l'alcool et ce sont les liqueurs qui ont la faveur du public, d'autant qu'elles sont 4 à 5 fois plus puissantes que le vin. Le nombre d'alcooliques augmente considérablement et François Ier ordonne de couper une oreille aux récidivistes avant de les bannir. Jamais les Arabes, malgré leur réputation de cruauté, n'avaient appliqué aux alcooliques des châtiments aussi sévères. Pourtant, une immense hypocrisie règne, car le clergé lui-même produit des liqueurs, comme les chartreux ou les bénédictins. En quelques siècles, l'Europe recule d'un millénaire. La sorcellerie médiévale est accusée de célébrer des rites démoniaques. Le rapport entre drogue, luxure et sorcellerie est au rendez-vous. L'islam édicte des préceptes sur l'alimentation et les drogues, mais ne connaît ni drogue sacrée comme le vin de messe, ni drogue sacrilège. Au Xe siècle, Cordoue est l'endroit le plus cultivé et le plus libéral d'Europe. Au XIe siècle, le vieil homme de la montagne fonde l'ordre des Hachichins, modèle pour les ordres de chevalerie comme les Templiers. Bien que le mot Hachichin ait donné le mot assassin, ils étaient des guerriers bien moins cruels que nos croisés européens. L'opium est aussi utilisé, ainsi que le chanvre et le café. Puis, les poussées fondamentalistes auront raison de l'islam classique. En 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde et s'aperçoit que les Indiens fument une plante nommée petum ou tabacos. Les premières graines de tabac sont rapportées en Europe en 1520. Catherine de Médicis, reine de France, l'utilise pour soulager ses terribles migraines. Cette plante devient vite populaire et les enfants se mettent à fredonner la célèbre chanson « J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas ». En Amérique, la conquête s'accompagne dans un premier temps d'une libéralisation de la drogue, mais l'Inquisition s'en mêle. Pourtant, les trésors américains sont surtout d'origine botanique, ce qui surprend les Espagnols. Les Aztèques, si barbares par certains côtés, entretiennent de fabuleux jardins botaniques, lieux tout à la fois de divertissement, de pharmacie et d'archives. Ils possèdent de grands hôpitaux où les pauvres ont accès gratuitement et font un usage rituel du cacao. Dans l'Empire Inca, l'usage de la coca est un privilège de la noblesse. Au XVIIe siècle, après 100 ans de persécution, une croisade est organisée contre les Indiens. On brûle les graines, on détruit les plantes, il y a des procès et des condamnations. C'est toute une pharmacopée qui disparaît. Un autre stimulant américain est le guarana, dont la concentration en caféine est importante. Cette drogue ne donnera jamais lieu à polémique, car poussant au fond de la jungle amazonienne, les colonisateurs y arrivent tardivement. Ces données historiques permettent de préciser le moment d'un changement. Au début, c'est l'ivresse alcoolique qui était indésirable, car elle fit perdre la raison et conduit au mensonge. Dans un second temps, ce sont toutes les formes d'ébriété qui deviennent coupables, car le relâchement qu'elles induisent n'est plus un signe de culture, mais un plaisir interdit.
Monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. Ce que je te demande, une pipe. Un mégot, non pas d'anglaise ni de bout doré, ces tabacs-là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est acre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu ne fumes pas? Oh ben t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi, c'est du velours. Le tabac, c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, fardeau est moins lourd. Y a l'alcool, parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine, qui était une pocharde, a donné son homme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco. Quoi, c'est mon vice, à moi le perlon. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est acre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, oh j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, tenez, donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts je le roule, c'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche.
D'écouter Du Gris de Georgette Plana, non sans penser que cette chanson serait peut-être censurée aujourd'hui. Bertrand évoque la culture du pavot et la consommation d'opium lors d'un voyage en Afghanistan en 1976.
Oui, c'était toléré, c'était même accepter un peu, si on peut faire un parallèle, comme l'alcool ici, quoi. Bon, l'alcool en France, l'opium en Afghanistan, quoi. Et le hashish, pareil, quoi. Mais bon, essentiellement l'opium. Les Afghans étaient plus des cultivateurs d'opium que des consommateurs, quoi. Alors que, bon, sur le hashish, ils étaient aussi producteurs et consommateurs, quoi. Mais c'est vrai que l'opium, ils ont... C'est plutôt, pour eux, c'était une monnaie d'échange, quoi, avec... avec les pays alentours ou avec des gens qui avaient d'autres produits économiques, du moins économiques, style riz, style alimentaire, ils échangeaient contre de l'opium, quoi. Mais bon, ça s'est terminé, évidemment, quoi. Ça date 74 avant, et puis peut-être un peu après, mais bon, l'opium est vendu contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc cette monnaie-là sert à financer, comme du moins les différentes factions de la résistance afghane. Quoi. Le projet du gouvernement à une époque, oui, ça a été du gouvernement afghan a été de faire des tentatives de supplanter l'opium par d'autres cultures, quoi, style le riz, le blé. Mais bon, le problème, c'est que ces autres cultures ne rapportaient pas autant que l'opium, quoi. Les aides sont arrivées, ils ont su exploiter les aides, mais dès que les aidants ont eu le dos tourné, aux cultures d'opium, quoi, qui étaient là. On a un rapport prix-production, quoi, beaucoup plus rentable.
Si le vernis d'un vieux comptoir pouvait raconter son histoire, les yeux battus par tant d'ivresse brûlent au rythme d'un vieux mégot, au souvenir d'une caresse et du goût de la menthe à l'eau. Si le vernis d'un vieux comptoir pouvait encore te laisser croire, te laisser voir le malabar qui boit sa bière comme tous les soirs au coin du bar, jusqu'à très tard l'humanité sur ses épaules. Il vient du froid ou de l'été, couvert de rides, trop fatigué. Si le vernis du vieux comptoir pouvait encore donner à voir, le laisser dire à notre rêve, le goût d'ailleurs, du bout de lèvres, il ne vit plus que dans l'espoir de s'inventer une autre histoire. La fumée file sous les narines comme un regard se fait la belle en se jouant les filles de l'air à la lumière d'une étincelle. Danse dans un léger bruissement d'air. Danse dans un léger bruissement d'air. Danse dans les rayons du soleil. Et qu'il entend craquer ses os, à trop courir au devant d'elle, comme il doit bien sauver sa peau. Il danse l'errance de l'enfance et le goût de la menthe à l'eau. Si le vernis d'un vieux comptoir pouvait raconter son histoire, la fumée file sous les narines comme un regard se fait la belle en se jouant les filles de l'air à la lumière d'une étincelle. Danse dans un léger bruissement d'air, danse dans un léger bruissement d'air, danse dans les rayons du soleil. Dans un léger bruissement d'air, danse, léger bruissement de paix danse dans les
Merci pour le comptoir de Red Cardel qui introduit le témoignage de Nicolas.
Moi, j'ai commencé les toxiques à l'âge de 15 ans pour faire comme tout le monde dans mon quartier où j'habitais. Et ça a commencé pour faire comme les copains. Et très vite, je suis tombé dans un phénomène d'addiction car j'ai commencé par des drogues douces telles que le cannabis. Puis les années qui passèrent, les copains passèrent à des drogues un peu plus dures. Et je suivis comme bêtement. Donc ça a été très bien le speed, comme on appelle ça. Donc c'est qu'on prend avec une feuille slim, donc une feuille à rouler, avec un petit cachet à l'intérieur et qu'on avale. Et ça nous met plein d'énergie pour toute la nuit. Et moi, la seule fois où j'en ai pris, j'ai fini dans un arbre à dormir parce que j'avais fait un bad trip, comme on appelle ça. Donc les bad trips, c'est les mauvais délires. Donc tout peut se passer, un arrêt cardiaque, enfin toutes les choses mauvaises qui peuvent se passer. Ensuite sont venues la cocaïne. Donc la cocaïne, faut savoir que la première fois qu'on en prend, c'est en trace. Les traces donnent un sentiment d'invincibilité et on a beaucoup d'énergie. On est malade après, on a le bad, la descente, comme on appelle ça. Et ensuite, il y a eu l'héroïne. Donc ça, c'est une des drogues les plus dures avec le crack. J'ai pas pris de crack, mais le crack, c'est on en prend une fois, on est accro quasiment tout de suite. Et la drogue vraiment. Je dirais néfaste, et la drogue qui m'a donné le plus de sensations, ce fut l'opium, que j'ai pris pendant un an. Et l'opium, c'est bizarre, mais il y avait une facilité à s'en procurer qui était incroyable. Donc je vivais chez mes parents, et je rentrais tous les jours complètement groggy à l'opium. Je me souviens manger dans des casseroles à main nue. Et des mauvais délires, ne plus pouvoir rien faire, être une loque. Et à 19 ans, 20 ans, j'ai décidé d'arrêter. Et je suis parti dans un camping spécial avec mes parents. Et pendant un mois, je n'ai plus rien touché. Et j'ai commencé tout doucement à arrêter les toxiques. Et cela fait maintenant, ça va faire 5 ans dans quelques jours, que je suis clean de toute drogue et je n'ai jamais bu d'alcool. Alors, il faut savoir que quand on décroche, on ne dort pas, on a des sueurs, on tremble, on vomit, on n'a pas d'appétit, on fait que fumer des cigarettes. Ça augmente la consommation de tabac. Et on a besoin, on a un réel besoin. Alors ce phénomène de manque, en fait, dure à peu près, ça dépend les drogues, ça peut durer une semaine à deux semaines, quoi. Il y avait un médecin avec qui on pouvait discuter. Donc il nous donnait pas de médicaments parce qu'il voulait qu'on décroche à la dure. Vraiment voir les effets de ce que ça fait. Par contre, les médicaments pouvaient être donnés s'il y avait vraiment un vrai problème pour décrocher, comme par exemple des malaises, parce qu'il y a aussi les malaises qui sont là. Quand on n'est pas bien, on a la tête qui tourne, on a chaud, même s'il fait froid ou s'il fait chaud ou on a froid. On n'est pas bien, en tout cas on est mal dans sa peau, on a envie d'enlever sa peau, de sortir de là, on a envie de changer, mais c'est dur parce que Quand vous avez changé et qu'on vous retend quelque chose, il faut pouvoir dire non. Et c'est pour ça qu'il faut décrocher à la dure. Comme ça, après, on peut se dire, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. À l'époque, je suivais des études littéraires. Et ça s'est arrêté. Les études se sont arrêtées, quoi, parce que j'ai pas pu continuer.
Et alors décrocher, est-ce que c'était aussi décrocher forcément des copains de...
Alors oui. Là, il y a un tri dans les relations à faire qui est qui est inéluctable. Il faut trier ses relations parce que sinon la drogue continue et on s'arrête jamais. C'est un phénomène, c'est une roue qui tourne et si on n'arrête pas de la roue qui de la faire tourner, elle tournera jusqu'à ce que mort s'en suive. L'overdose. Et si j'avais un message à faire passer sur mon expérience et sur tout ce que j'ai vécu des choses, dormir dans la rue, manger n'importe quoi, enfin, ce serait ne commencer jamais. Voilà, c'est tout.
Vous êtes toujours avec l'équipe de Micro Standard des ateliers thérapeutiques artistiques de l'hôpital de Morlaix. Nous poursuivons notre regard sur les toxiques avec le docteur Charpentier, chef de service du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, rue de Brest, à l'hôpital de Morlaix.
Bonjour. Alors donc, l'intersecteur d'addictologie du Centre hospitalier de Morlaix donc est composé de deux unités. Un service d'addictologie, qui est un service d'hospitalisation, mais aussi de consultation et d'hospitalisation à temps partiel. Et le XAPA, qui lui est une structure médico-sociale qui reçoit essentiellement des gens en ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation. Alors le XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce sont des structures relativement récentes.
Quelle est la composition de l'équipe de soins ?
Alors donc les deux structures sont des équipes multidisciplinaires, donc il y a des médecins, il y a psychologues, assistantes sociales, une équipe infirmière et puis des secrétariats.
À qui s'adresse la structure ?
Les structures donc s'adressent aux personnes donc qui sont en difficulté, soit avec ce qu'on appelle des substances psychoactives. Substances psychoactives, c'est l'alcool, les drogues en général, et puis ou alors avec certains comportements. On a tendance à mettre un peu l'accent maintenant là sur des addictions dites comportementales dans lesquelles il n'y a pas de produits en cause. Bon, je pense notamment aux deux principales donc, qui sont l'addiction aux jeux, qu'il s'agisse des jeux de grattage ou des jeux sur Internet, et l'addiction aux jeux vidéo qu'on voit aussi chez les plus jeunes.
Vous avez quand même une population assez variée qui vient vous consulter.
Alors tout à fait, il y a une fourchette assez large de patients, aussi bien en âge qu'en catégorie socio-professionnelle. Le public est très, très diversifié, et puis les problèmes aussi, puisque les prises en charge ne s'adressent pas seulement aux personnes dépendantes. Quand on a créé la notion d'addiction pour remplacer un peu celle qui existait avant, d'alcoolisme et de toxicomanie, donc le but c'était aussi d'arriver à repérer un peu les difficultés avant qu'on soit arrivé au stade de la dépendance. Puisqu'à ce stade-là, les problèmes sont souvent bien ancrés, ça peut se soigner, mais c'est quand même difficile, alors que on sait maintenant qu'il y a des stades plus précoces, notamment une étape qu'on appelle l'usage nocif et auquel il est plus facile d'intervenir et il est plus facile pour la personne de changer ses habitudes et de retrouver des habitudes de vie moins problématiques.
Comment peut-on venir vous consulter ?
Sur rendez-vous. Donc moi, je suis pas le seul médecin qui consulte. Donc nous sommes actuellement trois praticiens. Donc il y a le docteur Guillou, le docteur Bougeant et moi-même qui intervenons. Donc le docteur Bougeant et le docteur Guillou interviennent aussi au centre d'addictologie, mais aussi au XAPA. Il suffit de prendre rendez-vous. Donc soit au centre d'addictologie. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est s'ils envisagent une prise en charge hospitalière, c'est de s'adresser plutôt au centre d'addictologie. Si par contre ils n'envisagent pas d'hospitalisation, dans ce cas-là, il vaut mieux s'adresser au XAPA en première intention, sachant que des réorientations sont toujours possibles, bien entendu, en fonction des difficultés des patients et en fonction de leur souhait aussi.
Est-ce que vous voyez autre chose à préciser d'important ?
Je crois que ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il faut que les gens n'hésitent pas à venir à faire le point s'ils se posent des questions sur leur consommation, sur leur relation aux produits, qu'ils n'hésitent pas à venir, même si c'est pour une fois. Je crois que c'est la première étape dans les problèmes d'addiction, c'est d'arriver à prendre conscience de ces problèmes, d'ailleurs les soins souvent ne sont possibles qu'à partir de ce moment-là. C'est souvent pour ça qu'on a des échecs quand les gens vont faire des cures et que c'est en fait sur la pression de l'employeur ou de la famille, tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes compris qu'ils ont un problème et réaliser qu'il faut essayer de faire quelque chose. Les soins sont souvent inutiles. Donc, ne pas hésiter à faire le point, ça peut aider justement à prendre conscience ou au contraire à se rassurer. Pourquoi pas
Est-ce qu'il y a un pourcentage de guérison ? Enfin, c'est difficile à estimer, je pense, mais...
Alors c'est très difficile à estimer, d'autant plus que, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, bon, souvent c'est un chemin, hein, c'est un accompagnement, hein, c'est... Allez, les problèmes se résolvent pas tout de suite. Mais ce qu'on constate quand même en général, bon, c'est que les gens qui s'engagent dans un suivi, bon, en général, il y a quand même une évolution favorable. Le problème, bon, c'est justement d'entretenir sa motivation et de garder le contact.
L'équipe du XAPA vous accueillera à l'entrée de l'hôpital rue de Brest du lundi au vendredi de 9h à 17h et possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires. Le numéro de téléphone est le suivant. 02 98 62 64 02. Le suivi est personnalisé et la discrétion assurée.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do.
Après Paolo Conte, nous retrouvons Nicolas pour un poème de sa composition, et puis un peu plus tard, Bertrand dans une histoire de jeu et de chandelle.
Poète au grand cœur, tu définis mes ardeurs. Chaque mot est une friandise, et toutes lignes ne sont que délectation. Un oxymore, et j'en viens à réveiller les morts. Poésie, je t'aime à la folie comme une femme que l'on chérit. Des baobabs, des mes Césaires, toutes ces syllabes sont le paradis et non l'enfer. J'attends au bord du gouffre tous ces voyageurs qui ne viendront pas. La célébrité est futile et dérisoire, je préfère le calme. Les mots, ma vie de poème, quoi. Aragon, Baudelaire, Verlaine, ça fait du monde pour la postérité. Parfois je slame mon arrogance et c'est mérité. Je ne suis qu'un artiste qui n'a rien dans les poches, mais du fond de mes jeux de mots, je vous guette. Encore un plus dans la collection. Dans mes veines, c'est du son et non une contrefaçon. J'ai mal à l'âme. C'est la seule tristesse que je ressens. Mais que faire à présent? Parfois je me dis, c'est pas plus belle mais plus dure la vie. Un mot et puis un autre, tout ça fait que, au final, je suis comme un coup de mistral sur l'être et le monde. Triste des raisons, je vous laisse sur mes incertitudes. Calmez-vous, triste curpitude. La poésie est féconde, je l'aime et surtout quand elle passe sur les ondes.
jeu n'en vaut pas la chandelle. Vieille locution que l'on trouve chez Montaigne aussi bien que dans Corneille. Et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas la chandelle. À croire que les hommes n'ont jamais utilisé leurs soirées d'hiver autrement qu'avec des dés, des cartes et des mises d'écus sonnants. L'expression signifie littéralement que les gains du jeu ne suffiraient pas à payer la chandelle, qui éclairait les joueurs, lesquels d'ailleurs, dans les maisons modestes, laissaient en partant quelques deniers de cotisation pour rembourser cet éclairage.
Merci de nous avoir suivis, en espérant vous avoir intéressés. Notre prochaine émission sera diffusée au mois de novembre. Et vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site internet www.stand-arts.org. À bientôt.
C'est bon.